Terre à Terre, le magazine de l'environnement, reprend pour la 17e année. On ne peut pas dire que les questions d'environnement soient désormais obsolètes. Il y a toujours autant de problèmes, peut-être même un peu plus. Donc cette année, le leitmotiv, ce sera « Faites-le vous-même, do it yourself ». On va commencer ce matin avec un vieil habitué de Terre à Terre, un bon moyen de démarrer l'année. Bonjour Yvan Saint-Jour, ça fait un moment qu'on ne vous avait pas vu, mais on vous connaît depuis longtemps. La première fois qu'on vous a vu, vous aviez fondé une revue, qui existe toujours d'ailleurs, un magazine, La Maison Écologique. Et puis quelques années après, enfin il y a eu d'autres épisodes sur lesquels on va passer, mais quelques années après, je me souviens être allé vous rencontrer dans la première tiny house que vous aviez construite vous-même de vos blanches mains. Et on avait réussi à vous écouter, enfin à vous faire parler pendant une heure sur 8 mètres carrés. Une maison complète, c'était assez extraordinaire, cette maison vit sa vie, toujours, et vous aussi. Et vous revoilà aujourd'hui dans un projet dont on pourrait dire qu'il est une sorte de synthèse de tout ce que vous avez fait jusque-là. La construction, le fait d'écrire dessus. Voilà que vous lancez avec un ami à vous, Philippe Pélan, qui est avec nous aussi ce matin, un nouveau projet, devenir autonome, ce qu'on appelle en anglais « do it yourself », le DIY. Mais alors, c'est un projet qui est conséquent avec lui-même, cohérent, puisqu'il s'agit d'une sorte d'encyclopédie à constituer soi-même, en fait.
Oui, tout à fait, bonjour. Alors c'est vrai qu'avec Philippe, on a décidé de lancer une maison d'édition. Le nom de la maison d'édition s'appelle Hippipip. On voulait que ça soit sympathique, vivant, rigolo, qu'on arrive à s'en souvenir et puis associer nos deux prénoms.
Donc, oui, parce qu'on va préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas d'aller chercher Hippipip, H-I-P, ce n'est pas des hippies, c'est Yvan Philippe.
Voilà, Y-P, trois fois, Hippipip. Donc, on a créé la maison d'édition Hippipip et effectivement, la première chose qu'on publie, et c'est ce qui va être un petit peu notre principale activité, ce sont des fiches pratiques pour devenir autonome, comme vous venez de le dire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec chacune des fiches que l'on édite, d'avoir l'essentiel d'une thématique, l'essentiel d'un sujet, pour même, soyons fous, arriver à remplacer un bouquin. Du coup, on fait dans le léger, on fait dans le super concis. Et comme avec Philippe, qui est beaucoup impliqué dans le monde du végétal, on est tous les deux quand même des gens qui pratiquons, lui beaucoup plus que moi, parce que moi, malheureusement, j'écris plus que lui. Et donc, on a vraiment, vraiment axé ces fiches pratiques sur le côté très, très pratique. Voilà.
Alors, côté très pratique, qui fait que cette fiche, effectivement, est très pratique. Elle a un format tout en longueur replié. C'est une sorte de... C'est pas un accordéon, puisque c'est plié toujours dans le même sens. Comment est-ce qu'on peut parler de ce format, Philippe Pélan?
On pourrait dire que c'est une forme de triptyque, donc avec une couverture. Et donc, on ouvre les trois volets pour découvrir à l'intérieur des schémas, des dessins, des illustrations. Voilà, c'est une forme de... on peut considérer que c'est presque des notices, des pas à pas de montage pour réaliser des choses très simples chez soi.
Le cartonnage, enfin le papier qui est un papier très épais.
Ouais, c'est un papier de 300 grammes, donc qui permet d'emmener ça dans l'atelier, dans la nature. On a mis une petite...
Il peut même essuyer quelques gouttes de pluie.
Il peut essuyer quelques gouttes de pluie. Voilà, donc grâce à un pelliculage. On a voulu faire quelque chose de léger, de simple, d'abordable aussi, au niveau tarif.
3,90€ la fiche?
Oui, c'est ça, oui.
Il y en a 20 qui sont sortis, d'un seul coup d'un seul. J'imagine qu'il y en aura d'autres après, plus loin. Et alors, je dois dire que la première surprise, c'est que on se dit, ah oui, c'est une initiative sympathique, on va apprendre à faire quelques recettes de cuisine, ou à reconnaître 5 fleurs, ou... C'est un premier pas sur le long chemin de l'autonomie. Il y en aura beaucoup d'autres derrière. Et la surprise, c'est que, effectivement, si on a la fiche « Je fais un pain délicieux sain et sans machine », ce qui montre la place qu'a pris la machine chez ceux qui aiment aujourd'hui faire leur pain, et des menus des 4 saisons sans gluten, quelques potions magiques pour un jardin sain et productif, c'est de vous d'ailleurs, ça, Philippe Pélan.
Oui.
on trouve aussi quand même la maison en terre, le four solaire, l'installation photovoltaïque, toutes choses qui sont quand même beaucoup plus complexes. Alors, est-ce que véritablement, avec une fiche en triptyque telle que vous venez de la décrire, on peut faire son four solaire ou construire son installation photovoltaïque? Vous faites oui de la tête, Yvan Saint-Jour.
Alors, ben, moi, je vais prendre le cas de la tiny house, puisque la dernière fois qu'on était ensemble, c'était dans une tiny house.
Et il y a une... Donc, la toute petite maison, 8 mètres carrés.
Toute petite maison. Alors, en fait, elle ne fait pas 8 mètres carrés, mais 10 mètres carrés. Et 2 mètres...
Pardon.
2 mètres carrés, c'est immense.
C'est vrai.
C'est quand même 20% de plus de superficie. Donc, elle fait 10 mètres carrés. Et là, avec Bruno Thierry, le charpentier qui m'avait aidé donc il y a quelques années pour construire la première en France. Donc là, on a rédigé une fiche technique sur la tiny house. On se dit, bon, c'est pas possible, c'est un format A3, recto verso. Expliquer une tiny house sur un format A3, c'est juste impossible.
D'autant qu'une partie du recto est prise par la couverture, sur laquelle il n'y a pas véritablement d'explication non plus.
Alors oui, il n'y a pas d'explication et il y en a. C'est-à-dire que dans la couverture, on voit ce à quoi ça va ressembler une fois terminé et l'ambiance dans laquelle on a envie de se poser avec la tiny. L'intérieur, donc le Paris, ça aura été, bien sûr, il y a tout un descriptif, là pour le coup rédigé par Bruno, très technique, et puis un dessin. Voilà. Alors tout repose sur ce dessin, cette illustration qui est faite là ici par Didier Georget, un excellent illustrateur didactique, et il nous a fait un dessin dans lequel on voit toutes les étapes de la construction de la tiny. Et moi qui ai cherché pendant quasiment une année avant de réaliser la première, toutes les informations qui existaient essentiellement aux États-Unis, enfin 99% aux États-Unis à l'époque, maintenant on en trouve pas mal en France, j'aurais rêvé trouver ce dessin-là qui m'explique bah, juste tout ce qu'il y a à faire. Après, il faut juste que je me dise, ah bah d'accord, le bois c'est quelle section? Je vais dans le texte, ah d'accord, c'est du 4x12 ou du 5x15, peu importe, mais voilà. Et donc je connais ma section et je regarde et tout est écrit, tout est dessiné. Et on a tout là. Et en fait, le pari est relevé. C'est-à-dire que, évidemment, il faudrait se revoir dans quelques années pour voir. Mais à mon avis, une personne avec cette fiche à trois recto verso peut construire intégralement sa tiny house.
Ce serait la puissance synthétique du dessin.
Ouais, mais alors je ne vais pas dire qui l'a dit parce que je déteste le bonhomme, mais mais il a quand même dit que un petit croquis valait mieux qu'un long discours. Je pense que c'est ça, c'est que avec les fiches pratiques, on essaye vraiment d'aller là-dedans. Quand le texte suffit, parce que voilà, il y a toutes les infos dans le texte, eh ben c'est super. Quand le texte ne suffit pas, il faut que le dessin et toute l'ingéniosité qu'on aura mis dans le dessin arrive à retranscrire des milliers et des milliers de mots.
Alors, est-ce que véritablement c'est ça, c'est-à-dire la fiche seule et le constructeur, ou est-ce que, parce qu'en vous écoutant, je me disais, ah oui, en fait, ce qu'il suggère, c'est que, armé de cette fiche, on puisse aller chercher des informations, mais en pouvant se référer à la fiche pour comprendre les informations qu'on peut aller pêcher à droite à gauche sur Internet ou ailleurs. Non. Vous êtes, votre pari va au-delà.
Il va au-delà parce que, avec Philippe, on s'est dit, voilà. On pourrait créer du virtuel, créer quelque chose qui se baladerait sur Internet et puis voilà. Ok, ça c'est une façon d'aborder le sujet. Nous, on voulait créer de quelque chose de solide, de concret en papier, parce que un jour peut-être qu'Internet va s'arrêter. Un jour peut-être que l'électricité va venir à manquer dans certains endroits et qu'on n'aura pas. Ah bah tiens, c'est vrai. Comment est-ce que on fait pour traiter les pucerons noirs? Ah oui. Regarde sur. Ah merde, Internet, c'est vrai, ça fait 15 jours qu'on l'a plus. Ah bon, bah dommage. Ah oui, mais regarde la fiche pratique qui pèse 37 grammes et dans lequel il y a tout ce qu'il faut. Pour les pucerons, pour tout ce qui pourrait arriver dans un jardin, eh ben on l'a physiquement à côté de nous.
Philippe Pélan, le pari est presque encore plus fou pour vous. Le monde végétal, c'est encore plus immense que de construire une maison ou un système solaire. Comment est-ce qu'on peut faire tenir le monde végétal dans une... Bon, j'exagère, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Ouais. Mais il va falloir en faire 150, 1000, 10 000.
Oui, effectivement, c'est infini, hein. On peut en faire des centaines. Mais là, une fois de plus, je me suis mis, moi en tant que jardinier, j'ai réalisé cette fiche par rapport à des exemples concrets pour répondre à des demandes de particuliers. C'est-à-dire, c'est pas très technique en fin de compte, c'est que des choses de bon sens. mais avec, une fois de plus, comme le disait Yvan, avec des dessins, des listes, des tableaux qui permettent de réaliser ce jardin. Là, en l'occurrence, là, il y a un jardin sauvage qui est décrit dans une fiche. Et j'ai voulu aussi partir avec des plantes sauvages. Je me suis dit, il y a beaucoup de difficultés, souvent, les jardiniers qui ont peu de compétences ont des difficultés à obtenir des productions parce que les plantes modernes, les légumes actuels modernes, ont besoin de beaucoup d'engrais, beaucoup d'arrosage, il faut les désherber, ils craignent la concurrence. Donc là, j'ai pris le pari d'utiliser des plantes sauvages, donc des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, des plantes annuelles, de telle sorte à créer une espèce d'écosystème, un peu comme ce qu'on peut rencontrer dans certains endroits, d'espaces de nature préservés.
Mais donc là, ce sont des plantes sauvages que vous cultivez?
C'est des plantes sauvages que l'on peut cultiver. Alors, bon, c'est assez difficile de se procurer les graines, mais j'explique comment récolter les graines dans la nature. Voilà. Et comment assembler ces graines entre elles pour qu'elles agissent en synergie. Parce que bon, il y a quand même quelques règles à respecter quand on veut que les plantes puissent toutes se développer ensemble. Donc, pour pas qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur l'autre. Et une fois de plus, là, le fait de se tourner vers des écosystèmes naturels, c'est pour éviter de faire des erreurs, voilà. Parce que quand on regarde la nature, on se dit, bon, mais il y a une nature originelle, il n'y a pas d'espèces qui vont prendre la place sur une autre. Tout ça se passe en une espèce d'autorégulation naturelle, une intelligence qui fait qu'il n'y a pas de débordement de parasites ou de ravageurs. Et voilà, donc en choisissant ces plantes sauvages et en les agençant d'une manière copiée sur les écosystèmes naturels, ben on évite beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que le but, c'est de prendre du plaisir, déjà, à jardiner, de pas avoir recours à trop de manipulations. Dans la nature, les arbres ont pas besoin d'engrais, ont pas besoin d'être désherbés. Voilà, donc j'oriente, grâce aux textes et aux suggestions que je fais, ben les personnes... à se tourner vers les plantes sauvages pour avoir plus de facilité dans leur production et dans le plaisir aussi.
Plus de facilité, mais on a quand même l'impression que la tâche est immense. Philippe Hélan ?
Oui, oui. Bah, la tâche est immense. Je pense que moi comment j'ai appris à faire du jardin ? Comment je me suis tourné vers le jardin sauvage, le jardin naturel ? Ben, simplement en me baladant, en regardant, en observant. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de grandes connaissances techniques. Si on prend le temps d'observer, d'écouter la nature, on a une forme d'intuition qui peut jaillir et qui peut nous aider aussi à avoir les bons gestes. Bon, mais là, quand même, je fais une liste des valeurs sûres, hein, parce qu'il y a des plantes qui sont quand même assez difficiles à assembler, à associer. Que dire d'autre ?
Eh bien, que vous faites aussi une fiche pour rattraper les éventuels pépins qui surgissent, ouais, néanmoins dans ce monde idéal que vous êtes en train, ouais, de nous décrire. Il y a toute une fiche sur les potions magiques, voilà, pour réparer, soigner les plantes.
C'est ça, oui. Donc, on n'habite pas dans une nature originelle préservée. Hein. Souvent, on commence un jardin dans des lieux dégradés où il y a des forts déséquilibres. Donc, on va, pour éviter de galérer et de perdre beaucoup de temps et de perdre des productions, bah je propose aussi des préparations qui vont aider à nourrir les plantes si les terres ont été appauvries, des préparations qui vont aider à réguler les populations d'insectes. Parce que là, on n'est pas dans une démarche d'éradiquer, hein. C'est une démarche toujours de régulation pour tendre vers un équilibre naturel en utilisant des plantes comme l'ortie, la prêle, la consoude, l'ail, la ténésie. Donc il y a une partie du jardin qui est attribuée pour cultiver des plantes qui vont nous servir à réguler les parasites, quoi, les insectes, on va dire.
Quand on écoute Philippe Hélan, on comprend bien ce que vous disiez, Yvan Saint-Jour, sur la nécessité d'installer une sorte de climat, d'ambiance, d'idée générale dans laquelle ce chemin vers l'autonomie peut se trouver. J'aimerais que vous me parliez de la façon dont vous avez pensé cette notion de transmission qui est très forte chez vous. Vous avez absolument chevillé au corps ce désir de transmettre, et vous l'avez depuis, en tout cas depuis que je vous connais, c'est-à-dire maintenant un certain nombre d'années. Et là, cette idée de ramasser de manière aussi compacte, et c'est vrai qu'il faut regarder, observer ces fiches plus que les lire. C'est-à-dire, il faut les lire, mais il faut les scruter véritablement et on peut y passer du temps. C'est pas un texte qu'on lit une fois et puis on le repose et c'est terminé. C'est vraiment quelque chose sur quoi on revient. Mais c'est une forme qui est très particulière, je trouve.
C'est vrai que la transmission, la communication, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps, en fait. Quand j'ai créé la Maison écologique, le magazine, en 2000, le premier numéro est sorti en 2001. On s'est rencontrés une année après. Et donc, y avait ça, évidemment, qui était dedans. Mais ça faisait déjà quelques années que moi, ça me titillait, tout ça. En fait... Là, après, je vais surtout pas oublier Philippe dans la partie parce que on a vraiment conçu ça ensemble. On a réalisé, il y a quelque temps, un hors-série pour le magazine Kaizen ensemble, un hors-série qui s'appelle Comment devenir autonome, et on s'est énormément régalé à le faire ensemble. Faut dire qu'on se connaît depuis quasiment 30 ans avec Philippe et que depuis quasiment 30 ans, enfin, sauf peut-être les premières années où on rigolait beaucoup sur beaucoup de sujets. Là, depuis quasiment 30 ans, on réfléchit sur les questions d'autonomie ensemble. Avec chacun notre bagage, on a chacun fait un parcours professionnel très très différent. On s'est croisés à plein d'endroits dans nos parcours professionnels. Mais en tout cas, ce qui fait aussi que les fiches sont telles qu'elles sont, c'est à la fois notre regard à tous les deux, notre très grande exigence, et Philippe est 10 fois plus exigeant que moi, il est absolument terrible là-dessus.
Sur tout ce qui est visuel.
Sur tout ce qui est visuel, la moindre couleur, on n'en a pas le droit à une erreur, et il faut pas qu'il y ait 1% de plus de cyan ou de magenta, sinon c'est terrible. C'est vraiment le fruit de, à la fois, toutes nos discussions amicales depuis quasiment 30 ans, et de nos parcours professionnels.
Et je rajouterais aussi, et nos expérimentations, on a expérimenté beaucoup de choses quand même, hein, dans le domaine de la recherche d'autonomie. Pour moi, beaucoup dans le côté pratique, hein, bien sûr. C'est un peu le fruit de nos expériences. Hein.
Vous, c'est l'eau, beaucoup, par exemple, la gestion de l'eau.
Voilà. Après la rencontre avec Anne Rivière, donc, qui est docteur en environnement, je me suis tourné, donc, il y a une quinzaine d'années, vers la gestion écologique de l'eau. Et donc, j'ai travaillé sur, toujours pareil, pour donner des solutions à des particuliers. Je travaille beaucoup pour trouver des particuliers pour des collectivités. Donc là, en l'occurrence, c'est le traitement des eaux usées par les plantes.
Qui a donné lieu à une fiche.
Voilà, exactement. Un jardin luxuriant en recyclant mes eaux usées, exactement. Ça fait toujours mal au cœur de prendre une douche, par exemple, et de se dire que l'eau qui s'évacue par le trou, n'est pas récupérée. Que faire de cette eau? Voilà. Donc, ça, déjà, d'une part. Et puis, je fais beaucoup les choses par amusement aussi. La phytoépuration, pour moi, c'est aussi, je vais recycler mon eau, mais je peux, pour moi, ça peut être très esthétique. Je vais agencer les plantes de telle manière. Je vais mettre des galets. J'ai envie que ce terrain vague ressemble à un ancien lit de rivière. Il y a cette recherche d'efficacité, on va dire, dans le recyclage de nos déchets, mais aussi cette recherche toujours se tourner vers un aspect naturel, voilà.
Mais aussi de plaisir, c'est ça que vous êtes en train de mettre en avant. On ne parle pas de corvée, mais de quelque chose de très joyeux.
Complètement. Quand, par exemple, on s'aperçoit qu'on a planté des iris, des roseaux, des joncs, et que ces iris, ces joncs, ces roseaux poussent grâce à l'eau qu'on utilise dans notre douche, par exemple, c'est marrant, quoi. Puis même de planter, c'est marrant de voir l'eau qui circule à travers les plantes. Et puis à la fin de ce système, par exemple, il y a une mare. Moi, j'adore me mettre à côté de ma mare, observer les insectes, les animaux qui viennent s'abreuver. Il y a toute une faune, une flore qui se développe.
20 fiches, donc, pour commencer. Comment est-ce que vous avez choisi les thèmes? Est-ce que vous avez essayé d'être le plus éclectique possible, ou bien est-ce que c'était en fonction des sujets qui vous tenaient à cœur, comme la phytoépuration, ou bien est-ce que c'est parce que vous connaissiez des grandes pointures dans tel ou tel sujet et que donc c'était le bon moment de faire une fiche? Parce que c'est pas vous qui avez rédigé toutes les fiches, vous en avez confié un certain nombre.
Oui, tout à fait. Il y a en tout, donc sur les 20 fiches, 16 auteurs différents. Donc si on s'enlève avec Philippe, il y en a 14 autres que nous. Voilà, et les fiches sont illustrées par 6 illustrateurs différents aussi. Comment on a réfléchi ça? Alors avec Philippe, on s'est posé un moment ensemble et on s'est dit, bon, on va les découper en familles. Il y a des grandes familles. On a habitat et énergie, cuisine, alimentation, jardin, aménagement extérieur, santé, bien-être. Et l'autre, la dernière catégorie, c'est vie sauvage et nomadisme. On reviendra dessus plus tard. Et là, quand on a eu nos grandes familles avec Philippe, on s'est dit, bon, alors, il faut vraiment qu'on attaque fort et puis voilà, on ne sait jamais s'il n'y a plus de papier, plus de moyens de communication dans quelques jours. Il faut que les 20 premières, elles soient indispensables. Donc on a commencé par ça, c'est cette réflexion-là. Et puis après, bien sûr, celles qui suivront finalement le sont tout autant. Mais voilà, ça a été vraiment cette réflexion de se dire qu'est-ce qu'il nous faut. Alors il nous faut quand même une réflexion intéressante sur l'habitat. Donc, qu'est-ce qui peut regrouper tout ça en une fiche et très concentré? La tiny, c'est pas mal. Et quelque chose d'encore un peu plus roots, un peu plus terrien, eh ben la carter. Donc là, c'est une fiche sur une espèce d'igloo, on va dire, pour faire très rapidement, en chaud et chambre. Une fiche réalisée par Evelyne Adam, qui est la conceptrice de ça.
Je dirais plutôt une maison de Hobbit, même, pour parler de la maison d'Evelyne.
Oui, c'est vrai qu'il y a tout à fait ce côté très rond, et puis avec la porte arrondie en plus, donc on est vraiment dans le monde de Tolkien. Et donc pour chaque grande famille, on était là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Et surtout aussi de rester dans l'innovation. Avec Philippe, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de ne pas reprendre des sujets qui ont été vus et traités et qui sont connus par énormément de gens, même s'il y en a certains, comme par exemple le compost, où tout le monde croit savoir maîtriser son compost. On a fait une fiche sur le compost, Philippe l'a rédigé. Ça peut paraître bateau. Eh ben non, il y a quand même pas mal d'innovations, y compris dans cette fiche-là. On a fait une fiche sur le four solaire. Pareil, le four solaire, moi j'avais aidé à traduire le premier ouvrage il y a quelques années sur le sujet. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Eh ben, le four solaire, on a trouvé une personne, Dominique Loquet, qui a mis au point de façon totalement empirique un four solaire extrêmement simple à réaliser, avec quasiment qu'avec des matériaux recyclés, mais vraiment d'une simplicité. Moi, j'étais un peu estomaqué quand je le voyais au début. Je me disais, mais t'es sûr que ça fonctionne et tout? Mais t'as fait. Il me dit, mais ça fait 20 ans que j'en fais. J'en ai fait des centaines. J'ai fait tous les relevés de température, etc., pour voir comment ça fonctionnait, comment ça réagissait. Et oui, son four solaire marche merveilleusement bien et il est d'une simplicité incroyable. Donc, il y a de l'innovation dans ce qui est connu et il y a de l'innovation aussi dans ce qui n'est pas connu. On a par exemple dans les fiches cuisine une fiche sur les fromages véganes. On parle de plus en plus de véganisme. Nous, on a tenu à ce que Hippipip soit un éditeur qui soit exclusivement végan, végétalien. Donc,
vraiment ?
Oui, c'est-à-dire que toutes les recettes qui sont proposées sont 100% végétaliennes. Voilà, on est exclusivement dans le végétal. Et là, on a demandé à deux personnes de nous faire une fiche sur le fromage végétalien. Donc là, il y a 5 recettes originales qui ont été faites et testées pour les fiches pratiques et dont on est très content. Et on a essayé de réfléchir chacune de ces 20 fiches dans ce sens-là.
Et effectivement, vous y parvenez. Ceci dit, tout de même une petite remarque. Vos fromages végétaliens, vegan, si on vient à manquer de tout, on manquera aussi d'argent. Je pense qu'ils sont assez coûteux.
Oui, tout à fait. Il y en a certains qui demandent quand même pas mal de...
D'ingrédients pas évidents à trouver, onéreux.
Pas mal d'ingrédients, on va dire. Il y a quand même beaucoup d'ingrédients pour arriver à essayer de fabriquer quelque chose qui se rapproche d'un fromage. On n'est pas du tout dans le fromage. Enfin, il faut abandonner l'idée du fromage, mais on l'appelle comme ça parce que c'est un clin d'œil. En plus, on est quand même en France. Donc, comme on avait fait une fiche sur le pain, il était indispensable qu'on fasse une fiche sur le fromage. On a hésité à faire une fiche sur le vin, mais voilà. Et donc, oui, c'est vrai que c'est assez coûteux. Ça reviendra de toute façon beaucoup moins cher que d'en acheter du tout fait. Par contre, au niveau de la provenance des ingrédients, on a été très vigilants, et surtout Philippe, qui à chaque fois réécrivait aux auteurs, attention, on veut vraiment privilégier des produits les plus locaux possibles, ou en tout cas, des produits qu'on peut se procurer en évitant au maximum les transports. Alors, je dis ça, après c'est toujours pareil, la graine de tournesol, il y en aura beaucoup plus dans le sud-ouest de la France que dans le nord-est. On reste quand même dans une production, on va dire, française, entre guillemets. Il n'y a pas le fromage vegan du sud-ouest et le fromage vegan de Paris ou de Bretagne. Mmh.
Kim Pache, vous détonnez complètement dans tout ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, mais moi j'ai l'impression que vous êtes une sorte de contrepoint à tout ce que Philippe Pélan et Yvan Saint-Jour nous ont dit. Innovation, vous vous intéressez, vous, plutôt au savoir antique et même ancestraux. On pourrait dire que vous êtes l'homme qui veut nous faire retourner à l'âge de pierre. Production franco-française, vous, vous vivez dans le Grand Nord. Régime végétalien, vous vivez de chasse et de pêche. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression, à chaque fois que j'écoutais vos deux amis, là, je me disais, mais alors, et lui, comment est-ce qu'il était arrivé là-dedans? Il est exactement l'inverse de tout ce qui est décrit.
Bonjour. Sans vous décevoir, je pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, on est bien dans le même voyage. En fait, finalement, ça dépend de quelle vision du temps on parle, je crois. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un monde linéaire où on voudrait toujours aller vers le progrès, alors évidemment, moi qui parle de préhistoire, qui parle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ça pourrait paraître, un retour en arrière, voilà. Alors que moi, je vois plutôt ça comme un cycle.
Je précise que vous signez deux fiches, une pour se faire un sac à dos dans les bois, avec les brindilles, les rameaux qu'on peut trouver sur place, et un autre pour apprendre à faire du feu soi-même, comme les hommes préhistoriques.
C'est ça. Là, il y a deux fiches. On pourra discuter du choix de ces deux fiches, éventuellement. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, moi, je pense vraiment qu'au contraire, en fait, on a une occasion ici, peut-être, d'asseoir toutes ces théories et toutes ces fiches, toutes ces notions, sur une base qui, pour moi, est la base la plus solide de toutes, qui est celle de nos origines. Parce que finalement, l'homme sur Terre est un homme sauvage pour la plus grande partie de son voyage. Donc si son voyage, c'est plusieurs millions d'années, finalement, on est devenu humain domestique, humain sédentaire, humain moderne, comme on l'entend, que depuis quelques milliers d'années. Donc finalement, l'effervescence humaine se situe bien dans la capacité des chasseurs-cueilleurs à avoir toujours su se vivre en communion avec la nature.
Quand vous dites ça, Kim Pache, c'est pas le résultat de vos lectures, c'est la conviction apportée par votre vie.
Oui, alors par mes expériences, mais aussi par les gens que je côtoie, puisque une bonne part de ce que je crois comprendre et ce que j'essaye de transmettre vient de mon partage avec les peuples racines. Donc notamment et grandement au Canada, dans le nord-ouest canadien, où il y a encore beaucoup des peuples premiers qui, eux, se nomment les Premières Nations et qui ont toujours, aujourd'hui, une culture qui est complètement basée sur cette notion, justement, de communion avec la nature. Pour eux, la scission n'existe pas. L'homme est nature, la nature est l'homme. Et puis moi, je le vérifie au quotidien dans ma vie dans les bois. Et donc vraiment, j'ai l'impression que c'est le terrain qu'on a en commun, je crois, Philippe, Yvan et moi, c'est de percevoir quelque part ce lien avec la nature et dont l'autonomie n'est finalement que l'expression. Donc au travers de toutes ces fiches, on met en exergue les liens et les outils qui nous lient à cette nature et non pas qui nous distancent de cette nature.
Yvan Saint-Jour évoquait le nomadisme. C'est quelque chose que vous pratiquez vous-même, que vous connaissez. Pourquoi est-ce que c'est important d'introduire du nomadisme dans ces fiches sur l'autonomie? Devenir autonome, c'est devenir nomade?
Alors, moi, je pense que le nomadisme, que ça soit à ses pieds ou à sa tête, c'est nécessaire à l'humain. Un petit peu comme aujourd'hui, on revoit tous les cours d'eau qu'on a un tout petit peu trop canalisés en France et dont on comprend que l'écosystème est la vie et l'avenir de ces cours d'eau. Dépend des méandres, des aléas, des courbes, de tout ce qu'on veut, eh ben quelque part, moi je crois vraiment que l'humain est la même chose, on a besoin de reméandrer un petit peu notre vision du monde, accepter des détours qui paraissent absolument pas pragmatiques, mais qui apportent une humilité, qui apportent la capacité aussi de s'arrêter dans cette grande course. Et dans ce sens-là, le nomadisme est essentiel à mon avis, parce que il empêche le cumul à outrance. Donc je parle autant du nomadisme physique que du nomadisme moral ou psychologique. Donc moi, je pense que c'est essentiel en fait. Pour moi, c'est une humilité en fait d'être en transhumance.
Mais comment est-ce que ça s'éprouve pour vous dans votre vie, là, quand vous parlez de ce nomadisme ?
Dans la nature, le nomadisme, il est... dans mon expérience, il est vital parce que, quelque part, si dans le monde moderne, on concentre beaucoup de choses très proches d'un endroit central qui est une maison, dans la nature, si on parle de cueillette ou de prélevée, il faut se déplacer. Donc, les saisons dictent ça. Par exemple, on ne va pas toujours trouver les mêmes choses aux mêmes endroits. Donc, par exemple, moi, je récolte dans ma cueillette, moi, il y a parfois des animaux. Je précise, voilà. Il n'y a pas que des plantes. Mais c'est un bon exemple, en fait. Par exemple, la saison des fruits va nous voir aller sur certaines montagnes où il y a des myrtilles, où il y a des aérelles. Et puis, un mois après, il faut aller dans des zones très basses de certaines vallées pour aller chasser l'élan. Au printemps, il faut trouver les lacs où les oiseaux migrateurs viennent pondre. Donc on se retrouve finalement à appréhender un environnement, une région, dans sa globalité. Ce qui, moi, m'a pris des années, d'ailleurs, à comprendre. Parce que ce monde sauvage dans lequel je vis, donc le nord-ouest canadien, est relativement intact d'anthropisation. Il n'y a quasi aucun humain. Et c'est gigantesque. Et il m'a été difficile, moi, au début, de comprendre que, voilà, si je suis pas au lac en avril ou au mois de mai, eh ben, je vais louper cette saison de ponte des oiseaux, par exemple. Alors que c'est ça qu'il faudrait faire, parce que c'est là où se trouve l'énergie disponible pour les humains à ce moment-là. Donc, si je suis en montagne à ce moment-là, je loupe l'occasion. Donc, comprendre cette nature, c'est aussi comprendre une échelle qui nous oblige au nomadisme, en fait.
Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ça alors que vous pouviez trouver tout tellement facilement dans le magasin à côté de chez vous ?
Je crois que c'est une sorte de quête de... En fait, au tout début, enfant réactif, j'ai voulu m'affranchir du monde moderne. Je me rappelle me dire, moi, j'ai pas décidé de naître au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Ça m'intéresse pas, ces histoires-là.
Alors moi, je vous disais par provocation, vous voulez nous ramener à l'âge de pierre, mais c'était vrai ?
Tout à fait, parce qu'à la base, en fait, ouais, c'est ça. À l'origine, l'idée, c'était ça. C'est qu'il me semblait qu'il y avait, que l'humain était mieux alimenté, ou l'histoire, l'apogée humaine se trouvait dans la préhistoire, pas dans le monde moderne, pour moi. Et je le pense toujours. Par contre, l'idée que nous soyons dans le futur par rapport à ce monde préhistorique et que de vouloir revisiter la préhistoire, ce serait passéiste, ce serait voir dans le passé. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est tombé, parce que je passe tellement de temps avec des gens, donc les Premières Nations du Canada, mais tous les peuples racines ont ça en commun, avec des gens qui voient le monde comme ou le temps comme des cycles, donc un retour perpétuel dans une notion de spirale, et non pas dans un monde, dans une vision linéaire. Alors forcément, dans ce cycle, on perd cette idée que ce qui est dans le futur est mieux que ce qui est dans le passé, etc. C'est plus du tout ça, la dynamique. Un petit peu comme on pourrait penser qu'un grand-père a des savoirs par sa longue vie et des expériences qui lui permettent d'avoir une vision claire de certaines choses. Et ben moi, j'ai envie de croire que des peuples racines qui ont des milliers, voire millions d'années en continuité, des cultures donc très très anciennes, ont sûrement cette capacité que nous, jeunes cultures, jeunes civilisations, n'avons pas.
Si ce n'est qu'il y en a de moins en moins de ces peuples racines, comme vous les appelez si joliment.
Alors, de moins en moins par rapport à nous qui sommes plus en plus. Mais si on garde l'idée qu'on parle d'humanité au pluriel, que notre humanité, notre civilisation est une particularité, une singularité, alors les peuples racines, eux, en termes de nombre et de nombre de cultures, pour l'instant, restent relativement inchangés.
C'est-à-dire ?
Alors, il y a toujours, selon les estimations, on estime entre 200 et 300 millions d'habitants sur Terre qui sont aujourd'hui hors de notre civilisation, dont les coutumes, la culture et la pratique au quotidien ne dépendent pas d'un système marchand, d'un système financier, vivent en harmonie avec des guillemets, en symbiose, en tout cas connaissent leur environnement et savent se débrouiller dans un endroit sans le détériorer et donc sans expansion, sans avoir besoin d'aller ailleurs et de chercher une nouvelle terre. C'est l'inverse, ils se retranchent même sur des zones que nous, civilisés, n'arrivons pas forcément à utiliser, j'aime pas forcément le terme, mais c'est un peu ça, hein, on a un rapport très utilitaire à la terre, nous autres civilisés. Alors voilà, hein, des hautes montagnes, des forêts boréales, des déserts, voilà les endroits où ces gens-là arrivent très bien à vivre, non pas à survivre. et avoir des cultures qui sont toujours voilà, avec cette vision que l'humain est part de la nature.
Vous dites à vivre, Kimpache, mais je vous ai entendu à un moment, dans une conversation, dire « nous autres survivalistes ». Donc vous, vous êtes un survivaliste ?
Non, alors j'ai pas dû dire ça. J'ai dû... il devait être question d'autre chose. Non, moi je suis vraiment... je me mets vraiment à l'opposé du survivalisme, personnellement. Déjà parce que dans la dénomination pure, moi je cherche à montrer qu'on peut vivre en nature avec rien, parce qu'on peut tout faire, tout est à disposition, pour peu qu'on sache où le trouver, et qu'on peut vivre de façon plaisante, agréable, voire même dans le jeu, comme le disait Philippe, quoi. On peut être dans cet état-là, dans l'état d'un enfant qui joue dans la nature, mais qui vit, hein, très concrètement. Alors que la survie, c'est un état précaire duquel on cherche à s'en sortir. Il y a une fuite dans le mot survie, il y a un état de précarité.
Alors vous disiez, peut-être vous disiez pas nous autres, mais il me semblait que vous vous mettiez dans le lot, vous disiez si on met 10 survivalistes dans une forêt pendant 15 jours sans rien, ils vont s'entretuer et il y aura plus personne, alors que si on met 10 membres des peuples premiers qui sont aujourd'hui très dévastés par la modernité, effectivement, donc qui sont souvent alcooliques, malades, eh ben ils s'en sortiront.
Alors effectivement, je parlais de ça. Et pour moi, c'est bah, l'exemple, vous l'avez cité, je ne vais pas revenir dessus. Je suis convaincu de ce phénomène-là, parce que pour moi, notre culture est très axée sur le matériel. Donc on a l'impression que notre félicité ou notre survie ou tout ce qu'on veut dépend forcément du matériel et de la technique et des objets. C'est chez nous, c'est une, plus qu'une dépendance, c'est vraiment une addiction au matériel. Alors que moi, je suis convaincu, et ma vie dans les bois, tant qu'à moi, me l'a démontré, ce qui permet de vivre dans un environnement, quel qu'il soit, et donc de perdurer, j'essaie d'éviter le mot survie, c'est bien la capacité d'interaction avec cet environnement. L'interaction, elle passe par un dialogue, et ce dialogue, les outils de ce dialogue sont la culture, sont notre vision de ce monde. Et c'est pour ça que, justement, à mon avis, la survie, c'est un catalogue de données sans vision, sans interaction avec l'environnement. Il s'agit de sauver sa peau dans un environnement hostile. Dans cet état-là, je pense que des humains mis dans la nature ont un piètre avenir devant eux. Alors que des peuples qui vivent avec cette nature, eux, bah, ont tout ce qu'il faut pour vivre, quoi, vraiment.
Alors ce qui est curieux, c'est que vous établissez ce lien entre humain et nature, mais pas entre humains eux-mêmes. Parce que c'est la question suivante que j'allais vous poser, Kimpache. Vous avez choisi de vivre dans la forêt boréale. Vous êtes à 700 kilomètres d'une ville. Et vous avez choisi la solitude.
Moins que ce que peut-être les gens ou même mon récit peut faire croire. C'est pas une fin en soi. Je me suis souvent retrouvé seul dans la nature, mais pas comme fin, justement. C'était pas un but. C'est plus faute d'avoir trouvé des compagnons de route dans un premier temps. Et moi, j'étais très pressé à 20 ans. Hein. Je me disais, oulala, il faut que je fasse ça vite, donc je vais pas attendre que quelqu'un veuille se joindre.
Il vaut mieux pas attendre la retraite, ça c'est sûr.
Voilà, donc j'y vais, même si c'est seul, même si je vais passer 3-4 mois seul, je le fais et je l'ai fait. J'ai fini par toucher, chez moi en tout cas, les limites de la solitude. Vraiment, je l'ai senti. J'ai aussi senti un danger là-dedans. Et je me suis rendu compte que finalement, une autre donnée pour vivre chez l'humain, c'est le partage. Et sans le partage, on n'existe pas. J'aime beaucoup nous, fils de Descartes, hein, on a conceptualisé l'individu, l'indivisible par « je pense, donc je suis ». Moi, je préfère nettement l'adage des Kogi qui dit « tu es, donc je suis ». On n'existe qu'à travers l'autre, ça j'en suis convaincu. Je l'ai tellement compris par ces mois de solitude que je suis sorti des bois à ce moment-là avec la conviction qu'il fallait que je partage. Donc ce partage passe par beaucoup de temps que je passe avec des Premières Nations au Canada, avec des amis, avec ma famille, et puis aussi passe beaucoup par les mois que je passe en Europe à transmettre tous ces savoirs. Et il passe aussi par une fiche, parce que finalement c'est la même chose. C'est ce besoin d'interaction qui est vital.
Alors, si on revient à ces fiches, justement, le sac à dos et le feu, c'est les objets de première nécessité pour cette vision que nous décrivaient Philippe Hélan et Yvan Saint-Jour. Que faire si demain il n'y a plus rien ?
Je pense que si on a choisi ces deux fiches, c'est bien comme il l'avait dit, on cherchait une sorte d'essentiel, mais je pense pas. En gros, la question là reviendra à dire s'il fallait emporter deux objets, qu'est-ce qu'on prendrait, hein, si il y avait rien autour de soi. Je sais même pas honnêtement quels seraient ces deux objets. Moi, plutôt que de voir cet aspect-là de l'essentiel, c'est plus encore une fois dans l'imaginaire qu'on a été travaillé. Pourquoi le sac à dos? Pourquoi le feu? Alors, le feu, c'est notre grand-père, c'est le grand unificateur entre la magie et le besoin, qui nous force à voir que, au travers de chaque besoin d'autonomie, il y a de la magie derrière. Ce que Philippe mettait en exergue avec le fait de se retrouver, à avoir du plaisir, à presque avoir un jeu. Le feu, c'est ça, on peut pas le palper, on l'attrape pas, il nous fascine, il fascine tout le monde. On n'aurait pas des bougies sur des tables si on n'avait pas un rapport magique avec cet élément-là. Et il nous est nécessaire, en tout cas à une certaine latitude, et en France, on est clairement dans une zone géographique où on a besoin du feu. Donc voilà, on trouvait que ça, c'était très bien, et rendre autonome à ce niveau-là, faire naître du feu en frottant deux bouts de bois, c'est quelque chose qui, moi, m'émerveille toujours, alors que j'en ai allumé des milliers. Et je pense vraiment que c'est une belle transmission et un bon premier pas vers ce rapport d'autonomie et ce dialogue avec la nature. Et puis le sac à dos, c'est presque une boutade, c'est parce que le sac à dos, il illustre finalement notre incapacité à être adapté dans la nature. Parce que quelque part, on prend un sac à dos faute de pouvoir faire sur place, de créer sur place ce qu'on prend avec nous. Hein. Donc moi, je trouvais que au lieu de toujours se demander mais qu'est-ce qu'on met dans ce sac à dos, parce que c'est ça toujours la question, que ce soit sur internet, que ce soit partout, moi je trouvais très drôle de renverser la question et de dire bah, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on met dans le sac, posons-nous la question de comment on fait le sac. Donc voilà, c'est plus dans l'imaginaire qu'il faut chercher la réponse.
Yvan Saint-Jour ?
Alors, je voulais juste revenir quelques minutes en arrière, parce qu'en fait...
Pas quelques milliers d'années.
Non, quelques minutes, ça suffira. Parce qu'en fait, on a sollicité Kim pour faire un sac à dos vegan, justement. Kim est trappeur. Kim est trappeur, comme il expliquait tout à l'heure, il ne fait pas que récolter des végétaux quand il est dans le Grand Nord. Et donc, il sait bien sûr aussi faire du cuir, tanner du cuir, et puis l'utiliser pour faire notamment un sac de portage. Et donc, le challenge avec Philippe, qui l'a vraiment bien accompagné sur cette fiche, ça a été de demander à Kim, enlève-nous tous les morceaux de cuir et fais-nous un vrai sac de portage végétal.
Mais pourquoi c'est si important, le véganisme? Là, vous commencez à titiller ma curiosité.
Alors, pour moi, c'est la fin de l'évolution. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais discuté avec Kim, mais ça, c'est très intéressant, justement, d'être là pour pouvoir en discuter. Mais pour moi, c'est l'évolution ultime.
Ah, donc c'est pas la fin, c'est la pointe de l'évolution.
Oui, voilà, on peut voir la pointe ou la fin, peu importe. En tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui se passer de protéines animales. On sait très très bien comment trouver tout ce qu'il nous faut dans le végétal. Les seules choses qui manquent dans un régime végétalien, c'est la vitamine B12, voilà, et éventuellement la D3. Mais bon, c'est surtout la B12, une vitamine qu'on trouve dans la terre et qu'on trouve dans les animaux. Mais qu'on trouve dans les animaux à l'état sauvage, parce que les animaux à l'état industriel, on leur réinjecte de la B12 à l'intérieur pour qu'ils puissent nous la retransmettre. Alors voilà, il y a que ça. La seule carence qu'il puisse y avoir, c'est dans cette petite vitamine-là. Et pour moi, l'évolution de l'être humain, c'est un regard de plus en plus empathique avec le vivant, tout le vivant. Et je pense que c'est essentiel de tendre vers ça.
Philippe Hélan, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Ouais.
Moi, je n'ai pas particulièrement envie de tuer un animal pour fabriquer mon sac à dos, par exemple. Puis bon, je connais un peu mieux le monde végétal, donc c'était aussi ça. Je pense que ça peut être un peu plus simple pour des gens qui n'ont pas l'habitude de vivre dans la nature, de commencer avec ça. En même temps, je ne remets pas en cause la possibilité de chasser, de fabriquer des ustensiles à partir de cuir, mais... C'est autre chose, et puis bon, ça n'avait pas vraiment été abordé non plus, ce type de... On est là, une fois de plus, dans l'innovation, quoi, de donner ces informations pour fabriquer ce sac.
Il y a juste une petite étape que vous avez sautée l'un et l'autre, mais de fait, elle ne vous concerne pas non plus nécessairement, Kim Pasch. C'est cette petite étape de quelques dizaines de milliers d'années de compagnonnage entre l'homme et l'animal. qui serait délié par une mesure que vous dites empathique, mais qui reviendrait tout de même à vider les habitats d'animaux et qui délierait, qui dénouerait ce lien entre les humains et les animaux, qui me pâche. Bon, je dis, ça vous concerne pas vraiment.
Ouais, alors la question directement, ouais, effectivement, non. Mais bon, alors on pourra revenir là-dessus, mais j'y profite de glisser que la vitamine B12 pour nourrir, mettre de l'eau à ton moulin existe bien dans la reine végétale. L'exception s'appelle la consoude. Voilà, donc on peut, grâce à la consoude, et peut-être, sauf erreur, il faudra regarder les boraginacées en général, il doit y en avoir d'autres qui ont cette vitamine B12. C'est donc bien dire qu'on peut effectivement se passer complètement... à nos latitudes, en tout cas. Parce qu'il y a peut-être des endroits où c'est plus dur que d'autres. Mais le compagnonnage avec les animaux, ouais, c'est une bonne question. Ça remettrait en question, finalement, la même façon, l'agriculture. Parce que, végétal ou animal, le rapport qu'on a au naturel et à la domestication par rapport au sauvage est clairement une question de fond, je crois, de notre civilisation. Et il y a vraiment matière à avoir une réflexion. Je veux pas... moi, mettre un bilan à ce moment-là, mais en tout cas, de se poser la question, qu'est-ce que la domestication, que ce soit des plantes, des animaux et de l'homme, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un animal domestique dorénavant, qu'est-ce que ça génère? Voilà, pour moi, c'est une question importante.
Et voilà que des fiches, aujourd'hui, pourraient aider à sortir de cette triple domestication.
Ah oui, nous rendre plus autonomes avec nous-mêmes, voilà. Et puis, effectivement, plus autonome. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être autonome dans l'alimentaire, parce que quand même, un de nos gros besoins primaires, c'est de manger. C'est beaucoup plus facile d'être autonome avec le monde végétal. On a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de disponibilité. Et puis, on n'est pas là à essayer de gérer... Zut, le renard est encore passé dans le poulailler, m'a bouffé 3 poules. Ah bah tiens, le mouton, il a une maladie, mince, qu'est-ce qu'il faut lui faire, etc. pour le maintenir en vie, pour pouvoir après le tuer et le manger. L'élevage, pour moi, en plus, reste quelque chose de compliqué, de technique, et dans lequel il y a vraiment une intervention nécessaire de l'homme. Kim, qui vit une partie de la vie dans les bois... Donc dans un endroit où justement le végétal vient à manquer une partie de l'année, parce que par moins 40 degrés avec 50 cm ou même beaucoup plus de neige, c'est sûr que là au niveau végétal, c'est un petit peu limité. Donc il y a des endroits de l'extrême comme ça, où l'être humain va trouver de la nourriture, de la ressource dans ce qui bouge et dans l'animal. Mais nous, aujourd'hui, et puis typiquement en France... pourquoi continuer à avoir un rapport comme celui qu'on a et qu'on a développé avec l'animal? Voilà, moi je me pose vraiment la question. Et...
bon, je vous laisse avec vos convictions, Yvan Saint-Jour, même si effectivement, moi il me semble que le compagnonnage avec les animaux, ça passe aussi par cette vie ensemble. Et je ne parle pas d'animaux de compagnie, bien entendu. Une dernière question, peut-être. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui de devenir autonome ou de redevenir autonome, comme vous le dites? On a pu avoir l'impression, en vous écoutant, en filigrane, d'entendre une crainte un peu millénariste, quelque chose de la fin du monde, de la catastrophe qui arrive. Est-ce que c'est véritablement ça, Philippe Pélan?
Pour moi, c'est déjà plus simple d'être autonome, parce que j'ai pratiquement toujours vécu dans des lieux où il fallait se débrouiller pour trouver des solutions, que ce soit pour moi, pour les autres... Donc ça s'appelle comme ça, donc, c'est-à-dire on a choisi ce nom, comment devenir autonome, mais en fin de compte, c'est des choses qui existent. On propose des solutions par ces fiches. Pour moi, c'est vraiment la simplicité, parce que je vis dans cet environnement. C'est pas un challenge pour moi de devenir autonome, mais j'ai envie de partager les fruits de mes expériences.
Yvan Saint-Jour?
Eh ben, j'abonde complètement. C'est ce qui est très étonnant, hein. C'est ça. Qu'est-ce que c'est si ce n'est cette fameuse recherche de simplicité volontaire? Le grand mot est lâché, mais en fait, c'est ça. C'est se réapproprier des savoirs, des savoir-faire, des connaissances. Donc nous, vraiment, on est énormément dans le pratique, hein, comme on l'a déjà dit. Voilà. Se réapproprier ça pour vivre plus simplement, pour vivre de façon moins dépendante d'un système, pour vivre avec plus de plaisir. On a parlé beaucoup de plaisir et c'est vraiment très chouette. Pour vivre le plus autonome possible, c'est ça.
Kim Pach ?
Alors, j'abonde effectivement. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je rajouterais que un principe de vitalité. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une espèce de passivité dans l'organisation de nos sociétés technologiques. Et l'autonomie, c'est le choix de ne pas s'endormir quelque part. C'est cette vivacité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Découvrir, c'est enlever des couches ». Et pour moi, tout est dit là-dedans.
Est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger, la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez enfin notre revue de web hebdomadaire après tout un été d'arrêt. Notre numéro de téléphone n'a pas changé, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Philippe Palares, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.